16h précise, on a 18 degrés au centre-ville de Victoria. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Débrief, votre rendez-vous info quotidien du lundi au jeudi. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. En interview aujourd'hui, vers 16h40, je m'entretiens avec Julien Picot, professeur d'économie au campus UBC de l'Okanagan, à propos du partenariat transpacifique et des enjeux qui sont associés à cet accord de libre-échange format géant. Pour l'instant, on va écouter les bulletins d'actualité de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouvera dans quelques minutes pour la suite des infos, provinciales notamment, et on parlera également beaucoup dans cette émission du référendum du Brexit qui a lieu demain. Donc restez à l'écoute, on est ensemble jusqu'à 17h. Le débrief est rendu possible grâce à la contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants vient de rendre public un sondage sur les ressources dans les salles de classe du pays. Près de 2000 enseignantes et enseignants ont pris part au sondage. Le document révèle que les professeurs ont besoin d'informations et d'outils pédagogiques de qualité sur les langues et les cultures autochtones. Heather Smith, présidente de la Fédération, a déclaré que les enseignantes et enseignants sont tout à fait prêts à faire connaître les points de vue des Premières Nations, des Métis et des Inuits à leurs élèves, mais il manque de ressources. La population canadienne a jusqu'au 31 juillet prochain pour se prononcer dans le cadre des consultations publiques sur un dialogue ouvert et transparent avec les Canadiens et l'exercice vise une nouvelle politique de défense pour le Canada. Le gouvernement demande également à des spécialistes de soumettre des mémoires en vue d'éclairer cette importante discussion, a rappelé le gouvernement. Les organisations non gouvernementales ont également l'occasion de laisser leurs commentaires en ligne. Jane Roney invite les personnes du secteur sans but lucratif, public et privé du Canada à poser leur candidature auprès du Comité directeur national sur la littérature financière. La chef du développement de la littérature financière a dit que les prochains mois verront l'organisme s'attaquer notamment à l'endettement des ménages. Les personnes intéressées peuvent poser leur candidature sur le site web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, et ce jusqu'au 21 juillet prochain. Le gouvernement de Justin Trudeau a lancé des consultations publiques concernant le processus d'élaboration d'un nouveau plan d'action pluriannuel en matière de langue officielle pour le Canada et les gens peuvent dès maintenant se prononcer sur le sujet et ce jusqu'au 31 octobre. Le gouvernement a indiqué que les consultations apporteront l'éclairage nécessaire pour relever les nouveaux défis et investir dans un nouveau plan d'action. Politique américaine, eh bien Hillary Clinton n'a pas encore annoncé qui sera son choix pour la candidature à la vice-présidence et selon des sources qui se sont confiées au réseau CNN, la liste serait plus courte que les gens peuvent l'imaginer. Il est à noter qu'Hillary Clinton n'a mené aucune entrevue sur le sujet jusqu'à présent. Parmi les noms des candidates et candidats potentiels qui reviennent le plus souvent dans l'actualité, notons celui du sénateur de la Virginie, Tim Kaine, le secrétaire du développement du Texas, Julian Castro, et la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a abordé la question de la foi religieuse d'Hillary Clinton. L'homme d'affaires dit douter du bien fondé des croyances religieuses de l'ancienne secrétaire d'État. Il a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec des pasteurs évangéliques mardi. Donald Trump a averti qu'il n'y avait aucun moyen de savoir quelle est la religion que pratique Hillary Clinton. En fait, nous ne savons rien de ses croyances, a-t-il précisé. Les travailleuses et travailleurs des postes à la retraite mettent sur pied une nouvelle organisation. Le lancement officiel du groupe est prévu aujourd'hui à Ottawa. Il s'agit de l'Organisation nationale des travailleuses et travailleurs retraités des postes. Le groupe sera dirigé par Jean-Claude Parot, ancien président national du syndicat des postes. Jean-Claude Parot a déclaré dans une dépêche que le nouveau groupe appuie les travailleuses et travailleurs des postes qui s'opposent aux compressions visant les régimes de retraite. C'est au tour du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada de se prononcer sur le nouveau cadre national de l'aide médicale à mourir. Président du Collège, Kevin Emery, a dit que la nouvelle loi est un élément déterminant pour les professionnels des soins de santé au Canada. Il a tenu à ajouter que l'aide médicale à mourir ne représente néanmoins qu'un aspect des soins de fin de vie. Kevin Emery a dit aussi qu'assurer un accès équitable aux soins palliatifs devrait être une priorité indépendamment de la nouvelle loi. Au sport au baseball majeur, victoire de l'Arizona 4-2 contre Toronto et Jays et Diamondbacks s'affronteront à nouveau aujourd'hui, en fin d'après-midi. Au hockey maintenant, la Ligue nationale a annoncé que le plafond salarial pour la prochaine saison sera de 73 millions de dollars, 1 600 000 dollars de plus que la saison précédente. Et toujours au hockey, après 17 saisons dans le circuit Batman, Vincent Lecavalier a confirmé sa retraite. Et dans la NBA, les 76ers de Philadelphie ont informé le joueur vedette de l'Université de la Louisiane, Ben Simmons, qu'ils feront de lui le tout premier choix lors du repêchage des joueurs universitaires demain.
Bonjour Julien Picot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
le train d'enfer. Armés de nos bécanes, on fait nos rastaquaires. En couroyant les petites mères. On faisait des courses avec les profs constabulaires. Moto au Ferenzi, on s'en va faire des wellies. L'auto à Poppy qu'on finisse en rallye. On arrive à l'école, crinque l'engin qu'on décolle. Ouais, pis ma gang de rang. Avec nos machines à gaz, on faisait tous les temps. Ouais, pis ma gang de rang. C'était pour qu'un beau chapitre, ouais, je te jure, c'est pas gênant.
Je sers si j'ai trop peur, si je me perds. Et dans la torpeur des villes, parmi les dormeurs fébriles, je rêve éphémère à la sueur des réverbères. On ne sait faire que danser, danser, ne penser à rien. On voulait de l'air et du temps, il est temps. Attendra demain. On ne sait faire que chanter, chanter, se tendre la main. J'ai courbé le cœur et les chines. J'ai pris la couleur des machines. Je ne me repère qu'à la lueur des faits divers. On n'a pas envie de grand chose. Juste un peu de vent dans les roses. Alors on se cherche un peu ailleurs dans l'univers. On ne sait faire que danser, danser, ne penser à rien. On voulait de l'air et le temps, oui mais tant pis, on attendra demain. On ne sait faire que chanter, chanter, se tendre la main.
Oh.
toute la revue de presse des éditoriaux. On va commencer, bien sûr, avec le sujet de l'heure, le Brexit, qui est le référendum, bien sûr, qui pointe et qui est imminent demain. On va savoir l'issue de ce débat entre les pro-exit et les pro-Europe. Et donc, demain soir, on aura le verdict des urnes. Je vous propose quelques textes parus dans les médias. Le Devoir, Le Monde, Courrier international. On va commencer par un texte paru dans Le Devoir. C'est une interview avec un spécialiste de la politique internationale, Olivier Schmitt. Il est professeur au Center for War Studies de l'Université du Sud Danemark. Londres a longtemps profité de son insularité pour entretenir une distance avec les tumultueuses affaires européennes. À la fin du 19e siècle, l'expression d'un ministre canadien fut reprise pour définir la politique étrangère de la Grande-Bretagne, le splendide isolement. À la veille du référendum sur le Brexit, alors que son spectre revient hanter l'Europe, quelles seraient les conséquences d'une sortie de l'Union européenne sur les plans diplomatiques et militaires? Réponse d'Olivier Schmitt, professeur au Center for War Studies de l'Université du Sud Danemark, de passage à Montréal à l'occasion de l'école d'été du Cerium, intitulée « Comprendre les conflits armés contemporains ». Le Cerium, c'est un centre de recherche de l'Université de Montréal. Alors, les questions du Devoir sont nombreuses. Les réponses du spécialiste sont assez longues. Je vais vous lire quelques-unes de ces réponses. Question de l'équipe du Devoir. Selon vous, la Grande-Bretagne serait-elle affaiblie par sa sortie de l'Union? Réponse d'Olivier Schmitt. Sans aucun doute, un Brexit serait interprété comme le signal du retranchement d'un grand pays sur une position géographique privilégiée, protégée par la Manche et par la dissuasion nucléaire. Bref, comme un retrait des affaires internationales. Pour contrer cette image, Londres pourrait décider d'augmenter son activité diplomatique à l'ONU et à l'OTAN. Or, tout dépendrait alors de l'impact du Brexit sur l'économie britannique. La livre sterling a déjà baissé depuis l'annonce du référendum et pourrait perdre 20% de sa valeur en cas de Brexit. Le retranchement diplomatique et militaire est alors un scénario bien plus plausible que l'activisme international. Des programmes militaires pourraient être annulés, comme le remplacement des missiles Trident qui équipe les sous-marins nucléaires et sur lesquels repose la dissuasion britannique. Il est vraisemblable, poursuit l'expert, que les États membres de l'UE, de l'Union européenne, ne soient pas disposés à rendre la vie facile aux Britanniques lors de la renégociation des accords commerciaux, juridiques et politiques entre Londres et l'Union européenne. Il semble peu probable que l'appareil d'État britannique soit capable de gérer de manière efficiente tous ces problèmes. Cela mènerait nécessairement à une baisse de l'influence de la Grande-Bretagne sur les affaires du monde. On sent chez les pro-exit, les pro-Brexit, une nostalgie de l'Empire britannique. Il y a l'idée selon laquelle, une fois sortie de l'UE, donc l'Union européenne, la Grande-Bretagne aura toute liberté pour conclure autant de partenariats stratégiques que souhaités dans le monde. Leur représentation mentale est celle d'une Grande-Bretagne au centre d'un réseau mondial d'interactions économiques et diplomatiques dont le Royaume serait le principal bénéficiaire. Rien n'est plus éloigné de la réalité, avertit cet expert, donc Olivier Schmitt, professeur au Center for War Studies de l'Université du Sud Danemark. C'est dans les pages du Devoir, ça s'intitule « Le Brexit et la tentation du splendide isolement ». Toujours à propos du Brexit, un texte paru dans Le Monde et c'est signé par nul autre que le directeur de la publication, Jérôme Fenoglio. C'est un éditorial donc pro-Union, pro-Union européenne, on s'en doute. Il écrit « Ce n'est pas galvauder le sens des mots que de parler d'un scrutin historique. Les Britanniques votent jeudi 23 juin sur le maintien ou non de leur pays au sein de l'Union européenne, l'UE. Mais l'enjeu va bien au-delà de l'avenir des relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe. C'est l'ensemble du projet européen qui pourrait être remis en question, pas moins. » Sans vouloir s'immiscer dans l'exercice souverain que constitue le référendum organisé cette semaine outre-Manche, il faut dire les choses comme elles sont. La Grande-Bretagne a formidablement profité de son appartenance à l'Union européenne. Depuis 1973, son économie s'est rarement aussi bien portée. Londres a donné au projet européen une patine très anglo-saxonne, libre-échange, élargissement à l'Europe de l'Est et centrale à partir de 1989, ouverture sur le monde. Le droit européen s'est forgé sous influence britannique. L'Europe d'aujourd'hui, qui depuis 20 ans n'a cessé de s'éloigner du rêve fédéral européen, porte profondément la marque du Royaume-Uni. Certains, continue le directeur du Monde, certains en France, pro-européens convaincus, disent souhaiter le départ des Britanniques. Ils y voient l'occasion d'une relance de l'intégration européenne sous influence d'un couple franco-allemand qui se trouverait soudain requinqué du seul fait de l'électrochoc du Brexit. Nous n'y croyons pas. Ce n'est pas dans l'air de cette époque d'euroscepticisme galopant au sein de l'Union européenne et il y a trop de différences économiques entre l'Allemagne et la France pour imaginer la reconstitution d'un couple flamboyant. Nous croyons au contraire que le Brexit libérerait certaines des forces les plus sombres qui travaillent aujourd'hui les opinions européennes. Nationalisme régressif, montée protestataire de l'ultra-droite et, ici et là, menace sur la démocratie. Le risque est grand d'un effet de domino avec, très vite, l'organisation d'autres référendums similaires dans d'autres pays membres et le début du démantèlement de ce qui a été accompli depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est dit, c'est signé Jérôme Fenoglio. C'est ce plaidoyer en faveur de l'Europe et du Remain, c'est comme ça qu'on appelle le vote pro-Europe en Grande-Bretagne, le Remain. Je vous propose ensuite un édito paru dans les pages du Courrier international. C'est encore une fois un papier pro-européen. Il y a à peu près... c'est très difficile de trouver des articles qui, de l'étranger, demandent aux Britanniques de dire non à l'Europe la plupart du temps, la grande majorité du temps, dans la presse mondiale. On incite la Grande-Bretagne à rester dans le giron européen. C'était le cas de Justin Trudeau qui est allé d'une déclaration aujourd'hui pro-Union. À peu près tous les chefs d'État se sont déclarés pro-Union, à commencer par Obama il y a quelques semaines, fin mai, je crois. Alors, cet article éditorial du Courrier international, je vous en lis quelques passages. C'est à chaque fois la même chose. Au nom de la sacro-sainte Union européenne, il faudrait que les Britanniques choisissent de rester dans l'Europe. Pour les Anglais, pour la City, pour Bruxelles, enfin, pour tous, God save Europe. Quant aux irresponsables pro-Brexit, on se souvient de la phrase biblique empruntée par Ségolène Royal, il y a quelques années. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La chose est entendue à Berlin, Bruxelles, Rome ou Paris. Nos dirigeants savent parfaitement ce qu'ils font. Ils ont beau voir depuis des mois la locomotive européenne foncer dans le mur, ils sont, eux, des dirigeants responsables. Alors, c'est un texte sarcastique. J'aurais dû vous le mentionner d'emblée. Il poursuit. C'est signé par l'équipe éditoriale du Courrier international, donc ça n'est pas sous la plume spécifique d'un membre de l'équipe éditoriale. C'est signé par la rédaction. Alors, ce texte, donc, enjoint, bien sûr, plus loin, à rester dans l'Europe, je vous en lis un dernier passage. Quitte à ignorer les coups de canif qui se multiplient dans cette union de façade ou la dangereuse progression de l'extrême droite, y compris au Royaume-Uni, où elle serait à l'origine de l'assassinat de la députée Jo Cox, ou encore le rejet des partis traditionnels, l'élection le 19 juin de la candidate du mouvement 5 étoiles à la mairie de Rome, en est le dernier exemple en date. On a enfin ces sondages qui, à l'instar de la récente étude du Pew Research Center, témoignent d'un désaveu croissant des institutions européennes. Alors, peut-on vraiment reprocher à David Cameron d'avoir voulu jouer à la roulette russe en initiant ce référendum, point d'interrogation, ou au contraire le remercier d'avoir suscité ce moment de vérité? La colère est pareille à un cheval fougueux. Si on lui lâche la bride, son trop d'ardeur l'a bientôt épuisé, écrivait William Shakespeare. Le problème de cette Europe en plein doute, c'est qu'elle refuse trop souvent de lâcher la bride. C'est un texte paru dans le Courrier international. Je vous mentionne enfin rapidement ce papier paru dans le portail indépendant Rabble.ca. C'est un média alternatif canadien-anglais qui revient sur les rumeurs persistantes qui montent en crescendo voulant que Jason Kenney quitte bientôt la politique fédérale pour se lancer en politique provinciale en Alberta. Donc Jason Kenney serait sur le point d'annoncer sa décision. Ça n'est pas encore confirmé. On sait que Jason Kenney est originaire de l'Alberta. Ça a été un des ministres de Harper, un poids lourd du cabinet Harper, donc durant l'ère Harper 2006-2015. Alors, Jason Kenney aurait l'intention de rassembler la droite albertaine qui a été mise en déroute l'an dernier par l'élection de Rachel Notley. Cette droite demeure d'ailleurs désunie actuellement. Elle est dispersée entre le Parti progressiste conservateur et le Parti Wild Rose. Donc, est-ce que Jason Kenney est l'homme providentiel? Cet article paru dans Rabble.ca, soulève plusieurs doutes. C'est un papier écrit sur le mode ironique, on va dire. Donc, je vous le recommande donc sur le portail Rabble.ca, excellent média de centre-gauche sur le web. On va bientôt se rendre à l'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Julien Picot, professeur d'économie à la Irving K. Barber School of Arts and Sciences sur le campus Okanagan de l'Université de Colombie-Britannique. Je me suis donc entretenu avec M. Picot à propos du partenariat transpacifique et des enjeux qui sont associés à cet accord de libre-échange format géant qu'on appelle aussi le PTP ou encore le TTP dans son acronyme anglais. Alors, on va écouter tout de suite cette entrevue et on va se retrouver dans un quart d'heure environ pour le mot de la fin. Bonjour Julien Picot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans l'émission Le Débrief, le rendez-vous d'infos de fin de journée à l'antenne de CILS FM. Aujourd'hui, on parle de libre-échange et particulièrement d'un traité qui fait son chemin, qui chemine depuis un certain temps et qui pourrait être bientôt adopté par différentes nations. On parle du traité transpacifique, aussi connu comme dans son intitulé anglais Trans-Pacific Partnership. Julien Picot, vous avez suivi ce dossier. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ainsi qu'à moi-même qui n'a pas très bien suivi qu'est-ce que c'est que cette créature, le partenariat transpacifique?
Alors, c'est tout simplement un accord de libre-échange sur certains produits et services qui sont créés dans certains des pays. Donc là, on parle d'une douzaine de pays, tout dans la zone Asie-Pacifique, donc il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Chili et certains pays d'Asie comme le Japon par exemple et le Vietnam. Et donc l'idée étant qu'on reprend un petit peu ce qu'avait été fait avec l'ALENA, donc l'accord de libre-échange en Amérique du Nord, et on l'étend finalement à l'Asie Pacifique. Et donc l'idée, c'est de favoriser les échanges, donc les exportations et les importations de produits et services entre tous ces pays-là. Et donc c'est surtout des produits industriels qu'on va s'échanger, donc les métaux, les minéraux, les machines industrielles. Il y a une partie des produits agricoles aussi qui rentrent là-dedans. Des produits pharmaceutiques aussi, des technologies de l'information sont aussi comprises dans ce traité-là.
D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est un progrès pour les citoyens canadiens et l'emploi au Canada, la santé de l'économie?
Alors, ça semble être pas si mal pour beaucoup. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas si mal pour tout le monde. Et je pense que quand on fait un accord de libre-échange ou même un accord international en général, il y a toujours du pour et du contre. On n'arrive jamais à avoir quelque chose qui va être complètement gagnant pour tout le monde dans un pays. Alors, ce qu'il faut comprendre avec les accords de libre-échange ici, c'est que ça va nous donner des chances d'exporter certains de nos produits dans lesquels on est déjà très très bon dans la production. Donc là, par exemple, si on parle de certains métaux, si on parle du bois d'œuf, par exemple, là, c'est clair que ces gens-là, dans ces industries, sont très très contents avec ça. L'aviation aussi, tout simplement. On va favoriser la vente de nos avions bombardiers, par exemple, dans des pays comme l'Australie, comme le Brunei, comme le Chili et tout ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont très contents avec ça. Maintenant, c'est plus ceux qui sont sous la gestion de l'offre. On parle, par exemple, du lait, des œufs, des volailles. Là, on sait qu'on a un système très particulier de production au Canada. On n'ouvre pas vraiment jusqu'ici ces industries-là au reste du monde. Donc on trouve très rarement, voire pas du tout, de lait dans les États-Unis, par exemple, dans nos supermarchés. Et donc ça, c'est sûr qu'on ouvrirait un petit peu, parce que là, ici, c'est pas une ouverture massive. On parle de, dépendamment, là, dans le lait, les œufs, les volailles, entre 1,5 et 3,25% du marché complet pour le reste du monde. Donc, ou pour en tout cas les pays qui participent à ce traité-là. Et donc, en gros, ça veut dire qu'on reste que, même dans ces secteurs-là, 97 à 98% sera quand même produit par les Canadiens.
Donc, c'est plus timide que ce qu'a proposé, par exemple, du côté du camp conservateur Maxime Bernier récemment, lorsqu'il a émis l'opinion voulant qu'on se débarrasse de la gestion de l'offre à 100%.
Ah oui, non, on est très très loin de ça. La gestion de l'offre est maintenue, ou serait maintenue, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un traité qui a été complètement ratifié encore. Mm-hmm. Mais non, c'est une petite ouverture, en gros, pour ce qui est de la partie gestion de l'offre. C'est sûr que pour les autres produits, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est des droits de douane, qui pourraient descendre beaucoup. On parle de, par exemple, avec certains produits chimiques, je pense que c'est en Malaisie, on a des droits de douane actuellement de 50%, et d'ici 5 ans, ça, on n'aura plus de droits de douane sur ces choses-là. Donc on voit qu'il y a des gains très importants qu'il pourrait y avoir sur certains secteurs, même s'il est vrai que les secteurs sous gestion de l'offre pourraient pâtir un petit peu de ça.
Est-ce que on a laissé aux États le soin de légiférer en matière d'environnement sans trop interférer dans ce traité?
Bah, dans ce traité, finalement, on n'en parle pas vraiment de l'environnement. On peut faire un peu ce qu'on veut. Maintenant, c'est sûr que dans certains pays, on pourrait ne pas vouloir autant faire d'efforts sur l'environnement pour garder des avantages comparatifs. Parce que c'est sûr que c'est un marché de concurrence. Donc ça veut dire que quand on va vouloir vendre, par exemple, à l'Australie des produits, ben, on ne sera pas les seuls à pouvoir les vendre. Les États-Unis vont vouloir peut-être vendre du bois aussi à l'Australie. D'autres pays vont vouloir le faire. Et donc il va falloir qu'on aille les uns contre les autres pour avoir le meilleur prix, pour avoir la meilleure offre. Et donc c'est sûr qu'on sait que encore aujourd'hui, aller vers une économie verte parfois rajoute des coûts de production et donc pourrait jouer un petit peu contre certains produits canadiens, même si avec l'effort international qui se fait, notamment avec le protocole de Paris sur l'environnement, on voit que la plupart des pays maintenant vont avoir une stratégie qui devrait aller ou améliorer l'économie verte finalement.
Vous êtes toujours là?
Oui, je suis là.
Ok. On a souvent critiqué les traités de libre-échange internationaux sur un point en particulier, à savoir qu'ils donnaient un petit peu carte blanche aux entreprises et leur permettaient de poursuivre des États, des juridictions, des provinces et même des municipalités, si ça se trouve, à propos de lois qui les déplaisent et de finalement jouer, peser de leur influence sur la démocratie.
Oui, non, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit sur les lois de libre-échange, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on signe un traité international, on se doit de le respecter. Donc c'est sûr qu'il est important pour chaque gouvernement, et encore une fois, c'est chaque gouvernement parmi les 12 pays qui va devoir accepter ça. Et donc c'est vrai qu'il va peut-être y avoir des lois à modifier. Maintenant, ça reste du droit. Donc, tout ce qui reste conforme au droit restera conforme au droit, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr qu'on voit de plus en plus des pressions des multinationales qui veulent qu'on change les lois pour leur permettre de faire encore plus de business, finalement. Et là, ça reste, encore une fois, là, il faut que chaque gouvernement, en son âme et conscience, j'ai envie de dire, fasse mesure le bien et le mal, ou le pour et le contre qu'il y a dans ce traité-là avant de le ratifier. Maintenant, il faut voir aussi que avoir la capacité d'avoir finalement un marché de 40%, l'équivalent de 40% de l'économie de la planète, c'est énorme. C'est pas rien de se dire qu'on va pouvoir aller en Australie, au Japon, ou vendre en Australie, vendre au Japon, avec des droits de douane quasi nuls, voire nuls. Ça donne une capacité aussi de créer des nouveaux emplois. Je pense que des entreprises comme Bombardier, par exemple, sont très très contentes de voir ça, parce que justement, on va avoir plus de capacité de vendre des avions dans ces pays-là. Donc c'est sûr qu'encore une fois, c'est du pour et du contre. Y a-t-il une pression sur la démocratie? Probablement. Mais il faut comprendre qu'on est toujours responsable des lois qu'on vote et des traités qu'on signe.
Sinon, côté différents commerciaux qui pourraient survenir en aval après la signature du traité, est-ce que le dispositif de règlement des différends sera transparent selon vous?
Il faut l'espérer. C'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas très très clair comment ça doit se faire. Normalement, il y a toujours des cours finalement qui sont prévus par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a une expérience avec les États-Unis, par exemple, sur le dossier du bois d'œuf, qui est pas toujours très bonne pour le Canada. Maintenant,
oui, j'ai l'impression qu'on perd tout le temps.
Et eux aussi, d'ailleurs. Donc, c'est
ah, bon, ok.
C'est un peu toujours dans les deux sens. Et l'idée avec le bois d'œuf, c'est qu'il n'est pas impossible qu'il y ait des accords bilatéraux qui se fassent entre les pays. Moi, je serais pas surpris, par exemple, encore une fois, sur le bois d'œuf, que on ait un accord bilatéral spécifique pour le bois d'œuf qui se fasse. Donc moi, j'ai pas l'impression que si on veut avoir des différents commerciaux, si on veut avoir une règle un petit peu différente sur un produit particulier, qu'on ne puisse pas le faire. Moi, j'ai l'impression que ce sera toujours possible par rapport à ce que j'en vois des textes. Et d'ailleurs, on voit, il y a eu des pressions, mais on en parle une fois de temps en temps, là, que Christy Clark appelle Justin Trudeau pour dire que ça serait bien qu'on ait une entente ratifiée avec les États-Unis sur le bois d'œuvre.
Oui.
Pourtant, normalement, avec le partenariat transpacifique, on devrait avoir un marché ouvert. Donc, on voit que les deux seraient possibles en même temps.
Alors, le traité transpacifique permettra à certains États d'établir comme en marge, en annexe, des mini-traités bilatéraux sur des sujets plus disputés, on va dire.
J'ai l'impression que oui, parce qu'on continue quand même à avoir des discussions pour ces traités-là. Maintenant, c'est sûr qu'on devrait en avoir peut-être moins qu'on en avait avant, parce que finalement avoir cette capacité de libre-échange, parce que si on commence à faire un traité par produit, bah finalement le traité transpacifique ne servirait plus à rien. Mais c'est vrai que parfois il y a des secteurs qui sont un petit peu plus importants. On pense au bois d'œuvre, encore une fois, au Canada, entre le Canada et les États-Unis, et c'est vrai qu'à mon avis, c'est pas impossible qu'on ait un traité spécifique pour ça.
Et quel échéancier suit-on actuellement? À quel moment le traité sera finalement paraffé par les différentes nations?
Alors, je pense qu'ils l'avaient déjà pré-signé en février, et ce qu'ils se sont donné, c'est 2 ans pour que chaque pays, finalement, le fasse approuver par son parlement ou peu importe la voie de ratification que chaque pays aura. Donc, normalement, ce qu'on pense, c'est que d'ici 2018, ça devrait entrer en marche.
Est-ce que d'ici cette date, les citoyens auront la possibilité de faire entendre leur avis auprès du gouvernement Trudeau, à votre avis? Est-ce qu'il y aura de la part du gouvernement une certaine ouverture à entendre les derniers commentaires avant la signature?
Moi, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas trop le choix, finalement, parce que je pense que ça va devoir passer au Parlement et qu'il y aura de la discussion autour qui se fera.
Oui.
Maintenant, est-ce que ça veut dire que si beaucoup de gens sont contre, est-ce que ça va changer la décision du gouvernement? Ça, c'est pas sûr, mais un gouvernement espère toujours être élu, et donc sur une question comme ça, c'est vrai que l'opinion pourra avoir un petit peu d'impact, même si j'ai du mal à voir que le gouvernement finalement ne le signerait pas, parce que c'est quand même un traité qu'on fait avec 12 pays, et aller dire avec 11 différents pays, bon, finalement, désolé, on veut plus de vous, on n'a plus besoin de vous, c'est quand même quelque chose qui va être assez compliqué pour le gouvernement. Donc moi, je pense pas qu'à la fin, on aille contre, à moins que d'autres pays, finalement, aussi aient un problème avec ce traité.
En terminant, est-ce qu'il y aura d'autres traités dans la suite? Est-ce que d'autres traités attendent que le Transpacifique soit ratifié pour prendre le devant de la scène et des actualités? Est-ce qu'on devra signer d'autres traités peut-être avec d'autres sous-continents ou pays?
Ben, on sait qu'on a déjà des pourparlers avec l'Europe.
Oui.
Les États-Unis en ont aussi. Puis finalement, l'un des grands absents de ce traité-là, c'est la Chine.
Mmh.
Et donc, est-ce qu'un jour, on ne voudrait pas avoir un accord, peut-être pas de libre-échange, mais bilatéral ou multilatéral avec la Chine? Moi, j'ai l'impression que d'ici 10 ou 15 ans, il va falloir se poser sérieusement la question.
Mais en parlant de la Chine, sous le gouvernement Harper, des concessions importantes ont été faites aux Chinois et aux investisseurs chinois en activité au Canada, n'est-ce pas?
Oui, bah, c'est sûr que, spécialement nous, en Colombie-Britannique, on sait que la Chine, c'est très important. On le voit à Victoria, mais on le voit encore plus à Vancouver. L'investissement chinois, c'est très intéressant pour le Canada. Beaucoup d'argent qui rentre et qui vient stimuler notre économie intérieure. Donc, on voit que la Chine, c'est important. Puis, il ne faut pas oublier que la Chine, c'est un petit peu l'usine du monde aussi, encore aujourd'hui.
Oui, l'atelier du monde, l'usine du monde, oui.
Et donc, se fermer complètement de la Chine, c'est assez compliqué. Donc, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir un traité de libre-échange aujourd'hui avec la Chine parce que les coûts de production sont tellement bas et que notamment les règles de droits de l'homme et tout ça sont pas toujours très, très respectées. Mais se dire qu'on va pas du tout avoir de relations avec la Chine, c'est aussi c'est impossible aussi. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir réellement avoir une relation saine avec la Chine à un moment et voir quelles sont les limites, quelles sont les bonnes barrières douanières si on veut en conserver, tout ça qu'il va falloir y avoir entre nous, le Canada et la Chine, et peut-être les autres membres du partenariat transpacifique.
Stephen Harper, vers la fin de son mandat, avait reçu de vives critiques sur les concessions qu'il avait faites aux investisseurs chinois, qui étaient un petit peu placés au-dessus des lois et des législations provinciales. Est-ce que vous croyez qu'il en avait trop donné?
C'est dur à dire. Moi, j'aime pas quand on va au-dessus des lois. Donc ça, c'est plus un côté légaliste. Mais je pense que si les lois sont faites, elles sont faites pour tout le monde. Et donc, si ça avait été plus loin que la loi, je pense que les tribunaux devraient réagir et faire ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de l'argent qui vient de l'extérieur? Est-ce qu'on a besoin d'investissement extérieur dans le Canada d'aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression, spécialement avec la situation en Alberta qui est pas très jolie, et ce qui se passe avec le secteur du pétrole, avoir de l'argent qui rentre régulièrement venant du reste du monde, d'être capable d'aller chercher des marchés en Chine mais aussi dans d'autres pays asiatiques, je pense que c'est très important. Maintenant, il faut que ça se fasse dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, et qu'on respecte la loi canadienne.
Julien Picot, merci pour cette intervention, cet éclairage fort instructif. On va sans doute s'en reparler, c'est du moins ce que j'espère. On se reparlera donc dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
C'était Julien Picot à l'antenne de CILS dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos quotidien du lundi au jeudi. Julien Picot est professeur d'économie à la Irving K. Barber School of Arts and Sciences sur le campus Okanagan de l'Université de Colombie-Britannique. C'est déjà tout pour cette édition du Débrief. Merci d'avoir été avec nous pour cette heure d'information. On va se retrouver demain jeudi 23 juin à 16h comme à l'habitude. Dans quelques instants, ce sera Allô la planète, excellente émission animée par Éric Lange. On va se laisser avec quelques mesures de notre générique d'émission et on se retrouve demain. Excellente soirée.